La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Bonjour à tous. Alors, comme lors de la dernière émission, nous sommes encore en Chine, au début du XXe siècle, avec les pionnières créatrices au cinéma. La dernière émission, je vous ai présenté trois Chinoises. Yan Shanshan, qui a épaulé son mari Li Minhui à toutes les étapes cinématographiques, puis la première réalisatrice, Xi Keizhen, et la première scénariste, Pu Shunqing. Toutes nées fin XIXe siècle ou début du XXe siècle. Et j'ai également évoqué une musicienne dont je n'ai pu, hélas, vous faire écouter la musique et dont le nom est Xiao Xuxian. Alors aujourd'hui, une autre femme du nom de Hélène Wang, née Peng Jiangqing, se présente à nous. Elle est née en 1903 et sera actrice, monteuse, co-réalisatrice, productrice et distributrice. Alors, c'est bien des fonctions à son actif pour pleinement participer à la promotion du cinéma chinois. Alors, elle est issue d'une famille d'érudits où l'instruction était importante, si bien que ses parents déménageront à Shanghai pour qu'elle puisse entreprendre des études supérieures. Et elle y étudiera, entre autres, la littérature, la musique et apprendra aussi l'anglais. Malheureusement, ses parents décéderont avant qu'elle n'obtienne son diplôme. Aussi, c'est son frère qui assumera le rôle de tuteur et il ne fera pas mieux que de la marier à 16 ans avec un homme qui, paraît-il, était débauché et qui l'emmènera à plus de 1000 km de Shanghai. Alors, est-il utile de dire que dans ces conditions, le mariage n'est pas une réussite, si bien que la jeune femme reprend sa liberté et revient à Shanghai, mais son frère refuse de l'accueillir. Bon, elle trouvera quand même refuge chez une parente. Et elle commencera à travailler comme enseignante dans une école primaire, puis comme dactylo dans une entreprise étrangère. Alors en 1922, elle a 19 ans, elle découvre le cinéma en assistant avec un ami à la réalisation d'un film. Le réalisateur la repère car elle se classe avec son allure de fille de famille, son élégance, tout à fait en correspondance avec le personnage que le réalisateur recherchait pour son prochain film. Ce film, réalisé en 1923, s'intitule « Un orphelin sauve son grand-père ». Elle y jouera une femme riche et indépendante. Alors le film a du succès, elle est reconnue comme une actrice prometteuse. Et elle est lancée et change alors son nom pour Hélène Wang. Et elle tournera encore dans deux films en jouant à chaque fois une jeune veuve. Or, ce sont toujours des rôles tragiques qui valent à Hélène Wang le titre de principale actrice tragique. Alors, entre-temps, elle aura coupé tout lien avec sa famille, qui n'approuve pas son nouvel état professionnel. Il faut dire qu'à l'époque, être actrice était considéré comme dévalorisant, quasiment au même titre qu'une femme de mauvaise vie. Mais elle persévère, mais elle sera déçue par le studio, la Star Film Company, car les dirigeants jugeront qu'ils peuvent s'abstenir de lui verser le salaire promis, si bien qu'elle les quitte pour un autre studio, la Great Wall, qu'il emploie dans un film de 1924 intitulé « Le monde contre elle ». Alors, c'est un film que vous connaissez car je vous ai présenté le réalisateur Yu Hao et la scénariste Pu Shunqing. Alors, dans ce film, Hélène Wang est l'héroïne malheureuse puisque femme abandonnée par son mari, rejetée par sa belle-mère, et elle essaye de survivre et de conquérir son indépendance dans un monde fait par les hommes qui essayent d'abuser de sa faiblesse, notamment sociale. Alors la fin est tragique, puisqu'elle en meurt. Et il est dit que l'on peut faire un peu le parallèle entre la situation de l'héroïne du film et celle d'Hélène Wang, soumise elle aussi à bien des déconvenues, mais qui, contrairement à son héroïne, tiendra le coup. Car, Malgré son succès en tant qu'actrice, elle est sans cesse confrontée à l'exploitation, quel que soit le film qu'elle tourne. À chaque fois, en effet, elle n'obtient pas la rémunération qu'elle mérite, jusqu'à recevoir de la Great Wall un chèque en blanc. Et elle fut même abusée par des hommes d'affaires qui profitèrent de sa célébrité pour facturer les personnes venant solliciter chez elle un autographe. Si bien qu'humiliée et dégoûtée, et ben c'est là qu'elle décide de prendre les commandes pour la production. Alors elle se procure alors le scénario d'un romancier et scénariste célèbre, Bao Tianxiao, et s'attelle à produire le film intitulé « La revanche d'une actrice » de 1929, dont l'intrigue tourne autour de l'idée de l'amour libre contre les mariages arrangés. Et elle compte sur un réalisateur réputé, Bu Wangkang, pour réaliser le film, sauf que celui-ci ne remplit pas son contrat. Aussi, Hélène Wang décide de réaliser elle-même le film, malgré des conditions de travail compliquées et de gros efforts. Alors, elle projette enfin son film dans une douzaine de villes pour finalement faire fortune, et c'est après qu'elle quitte le cinéma en 1930. Alors, on peut dire que c'est une assez belle revanche, hein, après avoir été tellement exploitée par le monde du cinéma. Alors, qu'a-t-elle fait ensuite de sa vie ? Eh bien, en 1930, elle a 27 ans. Une biographe d'Hélène Wang nommée Shen Ji a raconté qu'avec l'argent qu'elle a gagné, elle s'est débarrassée définitivement de son ex-mari en payant les frais de divorce et qu'elle a ouvert, après une formation, un salon de beauté qu'elle fermera en 1937 lorsque les Japonais s'empareront de Shanghai. Et elle reviendra ensuite épisodiquement au cinéma en tant qu'actrice dans de petits rôles, car elle ne conviendra plus à ce type de cinéma qui s'orientera vers les causes sociales contemporaines où il faut interpréter principalement des ouvriers ou des combattants. Et par la suite, elle apparaîtra encore dans de petits rôles en 1958 pour quitter ensuite définitivement le monde du cinéma. Et elle vivra encore 20 ans, jusqu'en 1978, paraît-il, dans la solitude, pour décéder à l'âge de 75 ans. Eh bien, cette longue histoire d'une femme qui a plus donné au cinéma que reçu mérite que nous prenions une petite pause en musique, bien évidemment. Nous allons écouter de la musique chinoise, cela s'impose puisque nous sommes en Chine. Il s'agit là également d'une musique classique typiquement chinoise, qui, je crois, s'intitule « Fleur de jasmin ». Je le dis avec réserve.
Thank you.
Alors, la personnalité suivante, née en 1904, a également commencé sa carrière comme actrice et elle a ensuite bifurqué pour remplir d'autres fonctions. Il s'agit de Perle Ying, née Yin Shangxian, ou nommée également Yin Mingzhu. Apparemment, il semblerait que cette surdouée, belle de surcroît, fut favorisée par le destin à partir d'un événement plutôt tragique, hein, puisqu'il s'agissait de la perte de son père, qui était un peintre connu, et ce, lorsqu'elle était enfant. Sauf que celui-ci, avant de mourir, avait laissé un billet de loterie qui se révéla être un billet gagnant et qui fit remporter une belle somme d'argent à la famille. Si bien que celle-ci déménagea à Shanghai, où la mère put inscrire Perle Ying dans une prestigieuse école pour filles, où elle se révélera étudiante brillante avec des facultés pour les arts comme la danse et le chant, ainsi que pour le sport tel que la natation ou l'équitation. Alors à l'époque, elle était inspirée par le cinéma, surtout par une série américaine à succès en Chine, et notamment par son héroïne, Pearl White, dont elle prendra le prénom, et dont l'allure lui donna l'idée de créer sa propre ligne de vêtements et chaussures qu'elle proposera à des tailleurs et cordonniers, et ce avec succès, conférant à Perle Ying une réputation de fille moderne et à la page. Et elle fera tout ce travail avec deux de ses camarades, aussi créatives en matière de mode, Fu Wenhao et Yuan Danru, et toutes trois investiront les lieux huppés de Shanghai. Or, paraît-il aussi, elle encouragera par ce biais les filles de famille à se libérer des carcans sociétaux, tenaces encore ce début du XXe siècle, malgré certaines interdictions notables, notamment concernant les pieds que les femmes encore bandaient pour les atrophier afin de correspondre au modèle idéal de la féminité. Alors, je le dis avec réserve, mais il est vrai que les coutumes vieilles 2000 ans perduraient toujours ce début du XXe siècle dans les milieux privilégiés. Apparemment, cette coutume a été prohibée après la chute de la dernière dynastie en 1911, mais elle aura du mal à s'éteindre dans les provinces éloignées. Alors, pour dire quelques mots sur cette coutume qui contraignait la femme à rester dans une position subalterne et à ne pas dépasser les limites de sa maison, elle imposait sa loi pour conférer à la femme son plein statut de femme. Ce qui veut dire que sans les pieds bandés, pieds réduits à ne pas dépasser 7 cm, aucune existence viable n'était possible pour une femme. Elle ne pouvait pas se marier, n'était pas respectée, ne pouvait pas vivre une vie de famille, ni participer au culte des ancêtres. Bref, la femme qui ne bandait pas ses pieds était considérée comme morte et elle n'avait vis-à-vis d'autrui aucune existence reconnue. Alors, inutile de dire que ces femmes ont supporté d'affreuses souffrances, avec à la clé plaies et nécroses en tout genre qu'il fallait soigner, et les pleurs que cela imposait, sans compter les drames et accidents irréversibles. Ce qui veut dire que dès que la petite fille avait atteint l'âge de 6 ans, et pour acquérir à l'âge adulte son statut de femme plein et entier, elle devait se prêter à cette mutilation. Et les petits pieds étaient considérés en outre comme un signe de beauté et de raffinement. De même que le caractère de la femme chinoise se devait d'être doux, réservé et empreint de mystère comme peut l'être la magie d'une nuit de pleine lune. Alors comment sont-elles sorties de ces carcans? Eh bien, grâce aux concessions étrangères avec les Européennes qui vivaient de façon plus libre aussi avec leur corps et dans leur attitude. Et c'est fin 19e siècle que l'une de ces européennes, féministe anglaise de surcroît, nommée Archibald Little, monta au créneau pour prendre la défense des Chinoises. Et en cela, elle fut approuvée par l'impératrice Cixi, qui, native de la province de la Mandchourie, n'avait pas subi toutes ces mutilations. et bien des femmes ou jeunes filles chinoises, notamment intellectuelles ou épouses d'artistes et d'intellectuels, se rebellèrent contre ce dictat mutilant. Aussi, début du XXe siècle, les choses commencèrent à changer. Eh bien, après tout ce que je viens de vous raconter, nous avons besoin d'une pause musicale, en tout cas moi. Je vous propose, pour adoucir la dureté de mes propos, d'écouter la jolie et mélancolique musique d'un film chinois tourné en 2004, intitulé « Le secret des poignards volants ». Ce film du réalisateur Zhang Yimou met en scène dans la Chine de la dynastie des Tang, environ 860 après Jésus-Christ, la lutte entre groupes rebelles et gouvernements corrompus. On y trouve des scènes d'arts martiaux, une histoire d'amour contrariée, et la musique est composée par un japonais, Shigeru Umebayashi. Cette jolie musique, revenons maintenant à Perle Ying qui a 17 ans lorsqu'elle rencontre un jeune artiste peintre débutant au cinéma et se nommant Dan Douyu. Alors, leur goût commun, notamment de l'héroïne Perle White, les réunit d'autant plus que l'objectif du jeune cinéaste est de faire des films chinois en respectant la réalité vécue par les Chinois et non pas vu au travers des yeux des Occidentaux. C'est ainsi que Perle Ying interprétera son premier rôle dans un film intitulé « Perle de la chance » de 1922, où elle joue une jeune paysanne amoureuse d'un artiste pauvre et qui est contrainte par la famille à épouser un parent qu'elle n'aime pas, ce qui la conduit au rejet et à l'envie de se supprimer. Elle en réchappe grâce à l'intervention de son amoureux. Or, ce film fait une publicité à Perle Ying qui amène la réprobation maternelle, si bien que dans le film suivant, le rôle principal féminin, celui d'une jeune veuve, sera interprété par son amie styliste Fu Winao, mais avec l'assistance de Perle Ying. Or, ce film intitulé en anglais, que je n'ai pas traduit, « Replays for an Old World » de 1923, sera un succès et sera suivi d'un autre en 1925 intitulé « Entre amour et devoir filial », avec la même interprète, mais qui finira par quitter le cinéma pour se marier et devenir médecin. Alors, entre-temps, l'image de l'actrice ayant évolué, grâce sans doute à des actrices à succès telles qu'Hélène Wang ou Yong Naimé, dont je parlerai plus loin, la mère de Pearl Ng, alors, ne fait plus d'objection à ce que sa fille revienne devant la caméra. Et ce sera pour tourner en 1925 « Some Girls, certaines filles », qui serait un film à portée philosophique puisque l'héroïne interprétée par Pearl Ng est nommée Purity, s'installe en ville pour y rencontrer des personnages aux noms évocateurs tels que argent, séduction, enchantement, trahison, enfin j'en passe, hein, tandis que Purity, pureté, en revient et retourne dans sa campagne pour y retrouver l'honnêteté et la vertu. Or, ce film qui sort de la tradition déroute quelque peu le public, comme ce sera le cas également avec la pièce de théâtre Daybreak, écrite par Pu Shunqing, la première femme scénariste chinoise dont j'ai parlé dans le numéro de La Voix des Arts précédent, ce qui veut dire qu'il apparaît bien que ces femmes modernes imposent une autre façon d'appréhender la vie, en changeant également les regards que l'on peut porter sur les femmes chinoises nouvelle génération. Alors Pearl Ng tournera dans une trentaine de films en un espace de temps de 10 ans, avec Dan Duyu qui sera devenu entre-temps son mari. Il fut dit que l'intérêt porté au cinéma de Dan sera dû en bonne partie à la beauté de son épouse, mais son implication au cinéma ne sera pas réduite qu'à ses rôles d'actrice, puisqu'elle endossera une fonction de coordinatrice de production pour des films réalisés par la Shanghai Shadow Play Company, et ce, pendant quelques années. Et de plus, en dehors de son rayonnement à l'écran et son rôle de coordinatrice, elle se révélera une très bonne partenaire commerciale qui épaulera son mari, saura investir à bon escient, si bien qu'ils rebondiront même après les épreuves, notamment lorsque les Japonais bombarderont leur studio en 1932. Et avec l'aide de Pearl Ng, Dan Duyu créera un autre studio, la Shanghai Talkie Company, en 1934. Mais en 1937, l'occupation japonaise les force à partir à Hong Kong, où le couple trouvera à s'employer dans d'autres secteurs pour nourrir leur famille. Pearl Ng trouvera un emploi à la banque et son mari reprendra le dessin. Alors Pearl Ng ne reviendra plus au cinéma. Après la Seconde Guerre mondiale, c'est une histoire terminée pour elle, hein, qui décédera à Hong Kong en 1989 à l'âge de 85 ans. Mais fidèle à l'héritage de sa mère, l'une des quatre filles du couple de cinéastes, nommée Judy Dan, possédant la beauté de sa mère en devenant Miss Hong Kong et deuxième finaliste de Miss Univers en 1952, apparaîtra également au cinéma aux côtés de Yul Brynner en 1956 dans le film intitulé « Le roi et moi ». Eh bien, nous achevons notre émission de La Voix des Arts sur Pearl Ng. J'aurai plaisir à vous retrouver une émission prochaine pour continuer notre petit périple en Chine, toujours en compagnie de nos pionnières. En attendant ce plaisir, je vous remercie de votre écoute. La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux.